Chapitre 8. Relevons une autre erreur de Monsieur Thiers. Le voyage était lent, dit-il, puisque la voiture suivait le pas de la garde nationale. Il dura 8 jours. Le voyage dura 3 jours et non pas 8. Monsieur Thiers n'avait qu'à faire ce que nous faisons, lire et copier le voyage du roi écrit de sa main. Mercredi 22. Départ de Varennes à 5 ou 6 heures du matin, déjeuner à Sainte-Menoux, arrivé à 2 heures du soir à Châlons, y souper et coucher à l'ancienne intendance. Jeudi 23, à 11h30, on a interrompu la messe pour presser le départ. Déjeuner à Châlons, dîner à Épernay, trouver les commissaires de l'Assemblée près de Port-à-Binson. Arrivé à 11h à Dormant, y souper. Dormi 3 heures dans un fauteuil. Vendredi 24, départ de Dormant à 7h30, dîner à la Ferté-sous-Jouarre, arrivé à 10h à Meaux, souper et coucher à l'évêché. Samedi 25, départ de Meaux à 6h30, arrivé à Paris à 8h sans s'arrêter. Si l'histoire qui affecte de mépriser le pittoresque ne se préoccupe pas de donner des dates justes, nous demandons à quoi sert l'histoire. C'est bien peu de choses qu'une chronologie, mais une chronologie inexacte, ce n'est rien du tout. Rien d'important ne se passa de Varennes à Sainte-Menoux. Grand abattement de la part des illustres prisonniers, voilà tout. Sainte-Menoux était encombrée de monde. Les gardes nationaux affluaient de toutes parts. Ceux de Châlons y étaient venus soit en poste, soit dans des voitures particulières ou dans des charrettes de cultivateurs. Le nombre des étrangers était si considérable qu'un instant, on craignit de manquer de vivres à Sainte-Menoux. Des courriers qui se succédaient avaient annoncé la prochaine arrivée de la famille royale. Le maire et les membres de la municipalité s'avancèrent au-devant d'elle jusqu'au pont de l'Aisne, situé à l'extrémité de la rue de la Porte des Bois. Un officier municipal profita de la circonstance pour faire au roi un discours sur les alarmes que sa fuite avait causées à la France. Louis XVI se contenta de lui répondre « Je n'ai jamais eu l'intention de sortir de mon royaume. » Vers les 10 ou 11 heures, les voitures arrivèrent. Il s'était formé, depuis le faubourg jusqu'à l'hôtel de ville, une double haie de gens armés qui se repliaient sur eux-mêmes à mesure que les voitures avançaient. L'affluence était telle que l'on mit près d'une demi-heure pour faire 500 pas. Vers 11h30, le roi montait les marches de l'hôtel de ville. Ses habits étaient couverts de poussière et son visage était fort altéré. La reine, vêtue de noir, tenait le dauphin par la main. Louis XVI et les enfants avaient faim. Quant à la reine, de même qu'elle n'avait pas eu besoin de dormir, elle semblait n'avoir pas besoin de manger. Un déjeuner avait été préparé par les soins du conseil municipal. Mais comme on tardait à le servir, un gendarme nommé Lapointe, le même qui, avec Leguet, avait couru au secours de Drouet quand une fausse alarme avait dit qu'il était menacé, un gendarme nommé Lapointe apporta dans son chapeau des cerises à Madame Royale. La famille royale avait besoin de repos. Le maire, M. Dupuis de Namartin, lui offrit l'hospitalité. Le roi accepta. Seulement, le maire fit observer au roi qu'il serait peut-être bon que lui, la reine et le dauphin, se montrassent au peuple. Le roi se montra le premier. Puis la reine parut à son tour, tenant le dauphin dans ses bras. La fenêtre où ils se montrèrent, la seule à balcon de l'hôtel de ville, était trop étroite pour qu'ils se montrassent tous les deux à la fois. Alors un officier municipal se hasarda à annoncer au peuple que, le roi étant très fatigué, sa majesté se proposait de faire aux habitants de Sainte-Menoux l'honneur de coucher dans leurs murs. On avait déjà conduit les voitures sous les remises, lorsque les gardes nationaux des différentes villes ou villages environnants, qui encombraient les auberges et les cabarets, accoururent sur la place, faisant entendre les cris d'aristocrates et de traîtres, et demandèrent à voix haute le prompt départ du roi, qu'on ne faisait rester dans le voisinage de la frontière que pour que l'ennemi pût l'enlever. En conséquence, ils demandaient le départ du roi. Le roi entendit ce bruit, en demanda la cause, et l'ayant apprise, « Eh bien, soit, dit-il, partons. » La reine ne prit point la situation avec la même philosophie. Un vieillard nommé Chalier m'assura avoir entendu la reine dire à son fils, en lui montrant les gardes nationaux, « Vois-tu ces crapauds bleus? Ce sont eux qui veulent que nous partions. » Inutile de dire que la garde nationale était vêtue de bleu. Inutile de dire encore que je ne garantis pas ce propos. Un vieillard m'a dit avoir entendu, voilà tout, je le nomme. Au reste, cette apostrophe était bien dans le caractère de la reine. En traversant une salle de l'hôtel de ville, celle sur laquelle donne un guichet de la chapelle où les prisonniers entendent la messe, la reine, apercevant ses prisonniers à la grille, leur fit distribuer 5 louis et le roi 10. À 2 heures, les voitures partirent pour Châlons. Le roi, reconnu comme roi, occupait la première place dans la voiture. Les 3 courriers se tenaient sur le siège du cocher. Je suis, dans tout ceci, la relation de M. Buirette, témoin oculaire. Pas un seul cri de « Vive le roi !» n'accueillit l'entrée ni le départ du roi. Il n'entendit que ces mots « Vive la nation ! Vive les patriotes !» Nous entamons ici le récit d'un événement raconté de différentes façons. Nous voulons parler de la mort de M. de Dampierre, comte de Hans. Nous croyons avoir pris sur ce point les renseignements les plus précis. Voici comment les choses se passèrent. Vers le matin, c'est-à-dire vers 9 ou 10 heures, M. le comte de Hans était à Sainte-Menoux et se présentait dans la famille de M. Mathieu. Il était exaspéré. « Le roi vient d'être arrêté à Varennes, disait-il. Nous sommes tous perdus, mais le roi saura qu'il lui reste encore quelques fidèles sujets. » Il était venu à Sainte-Menoux sur un cheval de selle, ayant des pistolets dans ses fontes, et il portait sur l'épaule un petit fusil à un coup. Il était vêtu d'un habit marron à revers et à retroussis, orné d'un galon d'or. Il portait un pantalon gris, de longues bottes molles non vernies, un gilet blanc, un chapeau à 3 cornes galonné d'or comme l'habit. Au moment du départ du roi, il se tenait à cheval comme une sentinelle au coin de la rue de l'Abreuvoir. Lorsque la berline passa, il présenta les armes aux augustes prisonniers. Le roi lui rendit son salut. Alors M. de Dampierre mit son cheval au galop, disparut par la rue de l'Abreuvoir et prit des rues détournées de manière à précéder les voitures, puis s'arrêta sur la place de la promenade, se postant là comme au coin de la rue de l'Abreuvoir et présentant les armes de nouveau. Le roi salua une seconde fois. Alors, poussant son cheval à travers la foule, le gentilhomme essaya d'aborder la voiture. Avec de grands efforts, il y parvint. C'était au moment où les voitures montaient au pas le faubourg Fleurion. Il adressa la parole au roi, lui déclara ses noms, titres et qualités, et lui dit qu'il avait épousé une demoiselle de Ségur, parente du ministre de ce nom et nièce de M. d'Allonville. On comprend que, dans l'état de crainte et d'exaspération où étaient les esprits, c'était, de la part des gardes nationaux, une grande concession faite que cette impunité accordée à M. de Dampierre pour les armes présentées au roi. Cette conversation venant à la suite sembla une provocation à tout le monde. Cependant, M. de Dampierre, doucement repoussé, put une seconde fois s'éloigner et disparaître. On sortit de la ville et l'on arriva à la descente de Dammartin-la-Planchette. Au sortir de la ville, M. de Dampierre avait reparu. Il côtoyait la droite de la route à la hauteur des voitures royales, ne cessant de faire des signes au roi. Ces signes finirent par exciter la défiance. On crut que, dans les quelques paroles échangées à la portière de la voiture royale, il avait été question d'un projet d'enlèvement. On se serra autour de la voiture du roi et l'on empêcha M. de Dampierre de s'en approcher une seconde fois. M. de Dampierre essaya d'avancer avec une insistance qui fit naître des murmures et des menaces. Mais cette fois, son insistance n'eut point de résultat. Voyant ses efforts inutiles, M. de Dampierre voulut en finir par une bravade. Arrivé au bas de la Grèverie, il cria « Vive le roi !» déchargea son fusil en l'air et partit au galop. Un bois est situé à 1/2 kilomètre de la route. On crut que des troupes étaient embusquées dans ce bois et que ce coup de fusil était un signal. 5 ou 6 personnes s'élancèrent à la poursuite de M. de Dampierre. 10 ou 12 coups de feu partirent, dont les balles ne l'atteignirent pas. M. de Dampierre, toujours fuyant, agita son arme en signe de triomphe. Mais, en sautant un fossé, son cheval s'abattit. M. de Dampierre lâcha son fusil qui roula dans le fossé. Pourtant, avec la bride et l'éperon, il releva son cheval qui repartit au galop. En ce moment, un seul coup de fusil se fit entendre. Celui qu'il avait tiré était un paysan monté sur un cheval de hussard qu'il avait pris la veille. Il fut facile de voir cette fois que M. de Dampierre était atteint. Il tomba en arrière sur la croupe de son cheval qui se cabra. Alors, en un instant, avec la rapidité de l'éclair, à la hauteur du petit pont Sainte-Catherine, sur les bords du fossé dont l'eau passe sous ce pont, à 100 mètres de la route, se passa une scène terrible. Le paysan, suivi d'une quarantaine d'hommes, joignit M. le comte de Hans, lui porta un coup de sabre et le désarçonna. Puis on ne vit plus rien. Seulement, on entendit une vingtaine de coups de fusil. On fusillait M. de Dampierre à bout portant. Sur ce meurtre, qui a pourtant son importance, nous ne prendrons pas M. Thiers en faute, il n'en parle pas. M. Bertrand de Molleville en parle, lui, avec sa partialité ordinaire. Selon lui, le chevalier de Dampierre se trouvait par hasard sur la route de Châlons sans armes. Il voulait offrir au roi, par ses regards, l'hommage de sa fidélité et de sa douleur. Ce désir si naturel et si touchant lui coûta la vie. Ici, les erreurs ne se comptent point par page, comme dans M. Thiers, elles se comptent par ligne, presque par mot. Le chevalier de Dampierre n'était point par hasard sur la route de Châlons, puisque dès 9 heures du matin, il était chez M. Mathieu, protestant de sa fidélité au roi. M. Mathieu vit encore et l'atteste. Il n'y était point par hasard, puisqu'il attendait le roi au coin de la rue de l'Abreuvoir, puisqu'il alla de nouveau l'attendre à la promenade. Ce n'était point seulement par ses regards qu'il voulait lui offrir l'hommage de sa fidélité, puisqu'il parvint jusqu'à la voiture, parla au roi et put lui dire qui il était. Il n'était point sans armes, puisqu'on trouva des pistolets dans ses fontes. Maintenant, la question se borne à ceci. Monsieur de Dampierre a-t-il ou non tiré le coup de feu ? Monsieur Buirette, l'historien de Sainte-Menou, raconte le fait du coup de fusil, l'affirme, et pour qu'on n'en doute pas, il dit « J'ai rapporté tel qu'il s'était passé ce triste événement dont j'ai été témoin. Quoque ipse miserima vidi. » Écoutez maintenant M. de Lacretelle. « Ce noble gentilhomme, dit-il, ne pouvant résister au désir impérieux de montrer au roi qu'il existait encore quelques Français fidèles, fut atteint de plusieurs balles au moment où il sollicitait la faveur de lui baiser la main. Son sang rejaillit sur la voiture. » La mise en scène est peut-être bonne, mais le fait est faux. Vous ne croyez sans doute pas qu'on puisse s'écarter de la vérité plus que ne le fait M. de Lacretelle ? Bon, n'avons-nous pas l'abbé Georgel ? Chez lui, ce n'est point une simple erreur, c'est de la belle et bonne calomnie. D'abord, chez l'abbé Georgel, c'est à Varennes que le comte est tué, et les commissaires de l'Assemblée, qui ne vinrent jamais que jusqu'à Port-en-Benson, c'est-à-dire à une trentaine de lieues de Varennes, assistent au meurtre. Aussi, ce fait jette-t-il le digne abbé dans des considérations politico-philosophiques de la plus haute éloquence. « Voilà, s'écrie-t-il, à quel degré d'abaissement ces augustes têtes furent obligées de condescendre. Le comte de Dampierre est poignardé sous les yeux de Louis XVI au moment où il s'approchait de lui, les yeux baignés de larmes. Le corps du digne officier est foulé aux pieds des chevaux et Barnave, sans éprouver la moindre émotion, fait continuer la marche, rejetant ce malheur sur l'imprudence du vicomte, qui, malgré les consignes, s'était obstiné à percer la ligne pour pénétrer jusqu'au carrosse du roi, tant il est vrai que l'âme féroce de ce Barnave ne se dément nulle part. Nous verrons d'ailleurs bientôt où Barnave rejoignit le roi et les preuves que donna le jeune tribun de la férocité de son âme. Au reste, Michelet, l'homme sévère, l'historien sur preuve, Michelet est mis dans l'erreur. Voici son récit, pittoresque, animé comme toujours, mais s'écartant de la vérité sur le point principal. Un seul homme fut tué dans le retour de Varennes. Un chevalier de Saint-Louis qui, monté comme un Saint-Georges, vint hardiment caracoler à la portière, au milieu des gens à pied, et démentir par ses hommages la condamnation du roi par le peuple. Il fallut que l'aide de camp le pria de s'éloigner. Il était trop tard. Il essaya de se retirer de la foule en ralentissant le pas. Puis, se voyant serré de près, il piqua des deux et disparut dans les terres. On tira, il répondit. 40 coups de fusil tirés à la fois à l'abattirent. Il disparut un moment dans un groupe où on lui coupa la tête. Cette tête sanglante fut inhumainement apportée jusqu'à la portière. On obtint à grand-peine de ces sauvages qu'ils tinssent éloignés de la portière cet objet d'horreur. M. Burette non seulement ne dit point que cette tête fut coupée, mais encore, dans une note de son histoire, note 4, il donne la preuve du contraire. Voici la note. « Monsieur le comte de Dampierre fils, très jeune lors du funeste événement, et qui est aujourd'hui maréchal de camp, commandant des gardes de Monsieur comte d'Artois, obtint au mois d'avril 1821 la permission des autorités pour faire exhumer du cimetière de Chaudefontaine le corps de son père et le faire transporter au village de Hans dans le tombeau de ses ancêtres. L'exhumation se fit le 6 octobre à 6 heures du matin en présence de messieurs de Dampierre, Thierry, curé de la paroisse, Boucaud, officier de santé, Bouillet, maire de la commune, et des sieurs Bureau, Goujon, Soquet et Mathieu, tous quatre autrefois au service de M. de Dampierre, et qui avaient, en 1791, assisté à ses funérailles. Le lieu de la sépulture était indiqué par ceux-ci et par plusieurs anciens habitants du village. En fouillant, on trouva les restes d'un cercueil en bois de chêne, tel que les quatre derniers témoins avaient annoncé qu'il devait être. Ce cercueil était rempli d'ossements sur lesquels l'officier de santé découvrit et fit remarquer les indices de plusieurs fractures causées par des coups de feu. Ces fractures paraissaient au pariétal, à l'occiput, à la mâchoire, au sternum, aux omoplates. On trouva aussi de petits morceaux de cuivre attachés à la hanche. Personne ne douta que ces morceaux de métal ne provinssent de la montre brisée sur M. de Dampierre lors de son assassinat. Lorsque le fils fut rendu compte que ses ossements étaient ceux de son père, il les fit enfermer dans un cercueil neuf en bois de peuplier. Ce cercueil, déposé dans l'église, en fut retiré le lendemain et transporté à Hans, puis descendu dans le caveau de l'église de ce lieu. Si la tête eût été coupée, la tête eût manqué aux ossements, et bien certainement, le chirurgien qui constatait les fractures des os eût constaté l'absence de la tête. En supposant que la tête eût été réunie aux ossements, il eût du moins constaté la section de la colonne vertébrale. D'ailleurs, M. Mathieu et M. Nicaise, témoins oculaires qui m'ont donné, avec une fidélité d'impression qui a traversé deux tiers de siècle, les détails que j'ai rapportés, m'ont affirmé tous deux que la tête n'avait jamais été séparée du tronc. Puis, chose non moins remarquable, qu'atteste le premier procès verbal d'inhumation, c'est que les meurtriers de M. de Dampierre, qui, arrivés au village de Namartin-la-Planchette, faillirent s'égorger pour le partage du cheval et des armes, laissèrent sur le cadavre 50 louis en or que M. de Dampierre avait dans un étui et la chaîne de sa montre. La montre avait été pulvérisée par une balle. Enfin voici, contre la section de la tête, quelque chose de bien plus positif encore. M. Burette, qui aida à relever le cadavre, dit « Son corps fut trouvé, criblé de coups de feu et de baïonnettes. Sa figure, sur laquelle ruisselait encore un sang noirci par la poudre et couverte des empreintes de la barbarie de ses bourreaux, était méconnaissable. Sa montre était fracassée. Vous me direz qu'il y a eu, à l'époque de la Terreur, tant de têtes portées sur des pics qu'une de plus ou une de moins ne fait pas grand-chose dans la quantité. » Je répondrai qu'au contraire, en prenant la date, 22 juin 1791, une de moins fait beaucoup. Le tribunal, ajoute M. Burette, ne négligea point de rechercher les auteurs de ce meurtre. Une information, continuée à plusieurs reprises, mit à même de connaître les assassins. Les premiers découverts dénoncèrent les autres. Dans le nombre, on en comptait de la Neuville-au-Pont, de Passavant, de Hans, de Somme-Yèvre, de Beau-Saint-Coyère et même de Sainte-Menou, mais tous de la lie du peuple. L'Assemblée nationale ayant rendu, par la suite, un décret d'amnistie en faveur de tous ceux qui pourraient s'être rendus coupables de quelque crime ou délit relatif à l'évasion du roi, les meurtriers de M. de Dampierre se virent à l'abri de toute poursuite et de toute punition. Pour juger les actions des hommes, il faut se reporter aux époques où elles ont été commises et, autant que possible, dans le milieu où elles ont été accomplies. Il régnait à cette époque une effroyable effervescence contre le roi, encore plus contre la reine. Michelet cite deux faits, nous les citerons d'après lui en y en ajoutant un troisième. Cloué des Ardennes, dit-il, l'un des fondateurs de l'école polytechnique, âpre stoïcien mais sauvage, et qui n'eut jamais d'autre amour que celui de la patrie, partit sur le champ de Mézières avec son fusil. Il vint à marche forcée, à pied, il n'allait pas autrement, et fit 60 lieues en 3 jours dans l'espoir de tuer le roi. À Paris, il changea d'idée. Un autre, jeune menuisier au fond de la Bourgogne, qui plus tard fixé à Paris est devenu père de 2 savants distingués, quitta également son pays pour assister au jugement et à la punition du traître. Accueilli en route chez un maître menuisier, son hôte lui fit entendre qu'il arriverait trop tard, qu'il ferait mieux de rester, de fraterniser avec lui. Et pour cimenter la fraternité, il lui fit épouser sa fille. Quant à nous, nous avons copié sur l'original une adresse envoyée par les citoyennes de la ville de Tonneins à messieurs les officiers municipaux de la ville de Varennes. Voici cette adresse. 27 juin de l'an second de la liberté. Messieurs, permettez que les citoyennes patriotes qui ont l'honneur d'être affiliées au club de la Société des Amis de la Constitution de Tonneins viennent vous prier de présenter leur admiration, leur remerciement et leur reconnaissance aux braves citoyens qui, en arrêtant le roi, ont arrêté des flots de sang d'inonder l'Empire. Nous n'entendrons jamais prononcer leur nom sans attendrissement. C'est à eux que nous devons nos enfants, nos époux, nos amis, nos frères. Par eux, le moment où leurs bras pourraient être utiles à la défense de la liberté vient d'être retardé. Nous l'avons vu si près, ce moment. Cependant, j'ose dire, au nom de mes concitoyennes, que nous les aurions revêtues de leurs armes, que nous les aurions vues partir pour le maintien de nos droits, pour le salut de la patrie et de la liberté, non sans douleur, mais sans faiblesse. Car mieux vaut mourir que d'être esclave. Nous sommes, avec respect, les citoyennes affiliées à la Société des Amis de la Constitution de Tonneins. Désirée Besson, Marguerite Jamègue, Jeanne Monteil de Parre, Anne Paré, Barère Néfougagné, M. Bessedereau, Ducuit, Anne-Julie Castéra, Sophie Baudon, Catherine Fournier, Elisabeth Artaud, Louise Lenné, Marthe Dupont, Jouan Né Delru, Rosalie Peyre, Rose Marois, Marie Cousin, Cécile Réan, Sophie Medge, Veuve Esparnac, Marie Medge, Rose Mottet, Marie Randon, Fanny Artaud, Claire Vinet. La route était longue de Sainte-Menou à Châlons. Neuf éternaient le lieu à travers des plaines crayeuses, sous un ciel de plomb, avec des reflets aveuglants de soleil sur les canons des fusils et le fer des faux. La famille royale arriva à Châlons, brisée, rompue, exténuée, à 10 heures du soir. Les autorités, le maire en tête, attendaient les prisonniers à la porte Dauphine. Rapprochement étrange. Cette porte n'était autre que l'arc de triomphe élevé à Madame la Dauphine à son arrivée en France. Elle portait encore l'inscription « Aeternam stat ut amor ». Qu'elle reste éternellement debout comme notre amour. À Châlons, l'aspect de l'opinion change. Les rudesses patriotiques s'adoucissent. Cette vieille ville, qui n'a encore aujourd'hui que son commerce tout récent de vin de champagne, était peuplée de gentilshommes, de rentiers, de bourgeois royalistes. Ce fut pour tout ce monde un crève-cœur général que de voir le pauvre roi dans un pareil état. Un grand souper est préparé. Le roi et la reine soupent en public, comme à Versailles. Il y a présentation. Les dames arrivent avec d'énormes bouquets. La reine est couverte de fleurs. Buvez à cette coupe, sire, c'est la dernière gorgée. Le lendemain, on partira bien reposé, tard, après avoir entendu la messe et déjeuné, ou plutôt dîné, à cette époque on dînait encore à midi. La messe devait être dite par M. Charlier, curé constitutionnel de Notre-Dame. Malheureusement, le lendemain, tout est changé. À 10 heures, le roi se rend à la messe. Mais à peine la messe est-elle commencée qu'un grand bruit se fait entendre. Ce bruit est occasionné par plusieurs citoyens de la garde nationale de Reims. Des cris partent du milieu de la multitude, entraînés dans la cour et autour de l'autel. Des gens furieux se portent vers la chapelle. L'entrée en est forcée malgré la résistance de la garde nationale. Le roi et la reine quittent la messe et se montrent au balcon. Mais leur vue ne fait que redoubler l'exaspération. On demande le départ du roi, on tire les voitures de dessous les remises. Le roi annonce lui-même qu'il va partir. Cette annonce calme seule l'effervescence du peuple. Et cependant, la phrase qu'il a prononcée n'est rien d'autre chose qu'une protestation. « Puisqu'on m'y force, a-t-il dit, je vais partir. » En effet, vers 11 heures, il part. Lorsque, 40 ans plus tard, Madame la Duchesse d'Angoulême repassa à Châlons, toute cette matinée terrible lui revint à la pensée avec tant de force qu'en réponse aux félicitations qu'on lui adressait sous la porte Dauphine, elle ne trouva que cette réponse « Fouettez, postillon !» En Trépernay et Dormant, plus près de Dormant que d'Épernay, à Port-à-Binçon, comme le dit Louis XVI dans son journal, le cortège s'arrêta tout à coup. Le roi sort la tête de la berline et s'informe de la cause de cette halte. N'oublions pas que la voiture royale est toujours escortée par 3 ou 4 000 hommes. Drouet et Guillaume, qui semblent avoir disparu, ont pris les devants pour annoncer à Paris l'arrivée du roi. Le roi, avons-nous dit, s'informe de la cause de cette halte. Ce sont 3 députés de l'Assemblée nationale qui viennent diriger et assurer le retour du roi. Tous 3 choisis dans la gauche et exprimant 3 nuances de la gauche. Latour Maubourg, royaliste, Barnave, constitutionnel, Pétion, républicain. La voiture royale était arrêtée comme nous avons dit. Les 3 députés s'en approchèrent. Pétion tira un arrêté de sa poche et le lut tout haut. C'était le décret de l'Assemblée nationale qui les nommait pour aller au-devant du roi, leur commandant de veiller non seulement à la sûreté du roi, mais encore au respect de la royauté représentée par sa personne. La lecture achevée, Barnave et Pétion montèrent dans la voiture royale. Madame de Tourzel en descendit et monta avec Monsieur de Latour Maubourg dans la voiture des femmes de chambre. La reine eût préféré garder Latour Maubourg. Ce Barnave, ce petit avocat dauphinois à l'air spadassin, au nez en l'air, lui déplaisait souverainement, et tout autant Pétion avec ses joues roses et semblant tout gonflé de son propre mérite. Mais Monsieur de Latour Maubourg lui dit à voix basse « Je n'ai accepté la triste mission qui me rapproche de Votre Majesté que dans l'espérance d'être utile au roi. Votre Majesté peut donc compter sur moi qui lui suis tout dévoué. » Mais il n'en est pas ainsi de Barnave, qui exerce une très grande influence sur l'Assemblée. Il est vain comme un avocat, et sa vanité sera flattée d'être dans la voiture du roi. Il est donc important qu'il y soit, et que la reine ait une occasion de le connaître plus particulièrement. Je la supplie de trouver bon que je lui cède ma place. » La reine fit de la tête un signe affirmatif. Elle allait redevenir femme et séduire Barnave comme elle avait séduit Mirabeau. C'était descendre d'un cran, mais c'était toujours une distraction. Pétion donna du premier coup la mesure de son urbanité. Il déclara que, représentant l'Assemblée, il devait avoir sa place au fond. Le roi et la reine firent un signe à Madame Élisabeth, qui passa sur le devant. L'intérieur de la voiture fut donc composé ainsi. Au fond, le roi, Pétion, la reine. Sur le devant, en face du roi, Madame Élisabeth. En face de Pétion, Madame Royale et le Dauphin. En face de la reine, genou à genou, Barnave. Le premier abord de Barnave parut à la reine froid, sec et méchant. Barnave avait rêvé la succession de Mirabeau. Il l'avait déjà à peu près obtenue à l'Assemblée, mais il la voulait entière. La reine en faisait partie. La reine, à Saint-Cloud, n'avait-elle pas accordé un rendez-vous à Mirabeau ? Barnave n'avait-il pas droit à une pareille faveur de la reine ? Or, le bruit s'est répandu qu'un des 3 gentilshommes placés sur le siège de la voiture est M. de Fersennes. M. de Fersennes, à tort ou à raison, passe publiquement pour être l'amant de la reine. Barnave est jaloux de M. de Fersennes. Avec un admirable instinct de femme, la reine devina tout cela. Elle trouva moyen de nommer les 3 gardes du corps, messieurs de Moussier, de Valory, de Malden. Pas de Fersennes. Barnave respire, sourit, devient charmant. Beau, jeune, poli, de manières ouvertes, éloquent, plein du respect pour le malheur suprême qu'il avait en face de lui, ce fut presque Barnave qui séduisit la reine. Il est vrai que la rudesse de Pétion faisait ressortir sa courtoisie. Il y avait, entre Madame Élisabeth et Madame Royale, une carafe de limonade et un verre. Pétion avait soif. Il trouva tout simple de boire. Il prit le verre et le tendit à Madame Élisabeth. Madame Élisabeth prit la carafe et versa de la limonade à Pétion. « Assez !» dit Pétion en levant son verre, comme il eût fait au cabaret. Le dauphin, avec les impatiences juvéniles d'un enfant, allait et venait dans la voiture. Cela impatienta Pétion, qui l'attira à lui et lui fit une prison de ses deux jambes. Cela pouvait être une attention. Mais, tout en causant politique avec le roi, Pétion s'anima. Il avait commencé par caresser paternellement les cheveux blonds du dauphin, il finit par les tirer. L'enfant fit une petite grimace de douleur. La reine l'arracha des jambes de Pétion. Barnave, en souriant, lui ouvrit les bras. « Oui !» dit l'enfant. Et il alla s'installer sur les genoux de Barnave. Son instinct d'enfant lui disait qu'il y avait là un protecteur. En jouant avec ce qu'il trouvait sous sa main, il avisa un des boutons de l'habit du représentant et essaya d'en lire la devise. Après quelques efforts, il y parvint. Cette devise était « Vivre libre ou mourir ». La reine tressaillit et regarda Barnave avec des yeux pleins de larmes. Le cœur de Barnave se serra. Il était dans cette disposition d'esprit, suivant son roman personnel et égoïste au milieu de la royale et terrible histoire, lorsqu'un grand bruit se fit à quelques pas de la voiture. Ce cri, ce tumulte, cette rumeur tirèrent Barnave hors du cercle magique où il était enfermé. Comme M. de Dampierre, un ecclésiastique s'était approché de la voiture. Les yeux pleins de larmes, les bras au ciel, il voulait bénir son roi marchant au martyr. À l'instant même, 10, 20, 30 gardiens de la voiture s'étaient jetés sur lui et l'entraînaient pour le tuer derrière quelques buissons. Quand le peuple a goûté le sang, il est comme le tigre, malheur à qui tombe sous sa griffe. C'était cela qu'avait vu Barnave. Il repoussa l'enfant dans les bras de sa tante et ouvrit la portière d'un mouvement si rapide et si violent qu'il faillit tomber. Il tombait en effet sans Madame Élisabeth, qui le retint par son habit. « Oh, Français ! » s'écria-t-il. « Nation de braves ! Vous allez donc devenir un peuple d'assassins ?» Les bourreaux lâchèrent le prêtre qui s'éloigna, protégé par le bras étendu de Barnave et, plus encore, par son regard dominateur. Un instant, il fut beau, de cette beauté sublime qu'a tout homme au moment où il sauve la vie de son semblable. Aussi, en retrouvant Madame Campan, la reine lui dit-elle « Si jamais la puissance revient dans nos mains, le pardon de Barnave est d'avance écrit dans nos cœurs. » Jusqu'au moment où l'on avait rencontré les commissaires, le roi, quand il avait mangé selon l'étiquette, seul avec sa famille. Mais au premier repas, le roi et la reine, après s'être consultés, invitèrent les commissaires à manger avec eux. Pétion accepta. La Tour Maubourg et Barnave refusèrent. Barnave insistait même pour rester debout et servir le roi. La reine fit un signe et Barnave céda. On s'arrêta à Dormant. Depuis 2 jours, on marchait sous une chaleur écrasante, au pas, sous un âpre soleil de juin qui faisait poudroyer la route crayeuse, toute scintillante de sabres et de baïonnettes. Barnave comprit le supplice de la reine de marcher au pas, au milieu de cette poussière, de ces menaces et de cette curiosité. Il décida, avec ses 2 collègues, qu'on aurait désormais d'autres escortes qu'une escorte de cavalerie. Ainsi, du moins, on pourrait marcher au trot. De cette façon, le 3e jour, la famille royale arriva à Meaux. Puis Barnave souffrait de ce que Pétion, dans sa prétendue rudesse républicaine, faisait souffrir à ses augustes compagnons de voyage. Que de choses Barnave eût donné pour être seul avec la reine. Sa mauvaise étoile lui gardait cette faveur. Cette autre reine de France, comme Marie Stuart, devait coûter la tête à tout ce qui l'approchait. Arrivé à Meaux, sous le toit de Bossuet, dans ce palais sombre, avec son escalier de briques et son jardin borné par de vieux remparts, la reine voulut voir le cabinet de celui qui, un peu plus de 100 ans auparavant, s'écria de cette voix qui retentit par toute la chrétienté « Madame se meurt, Madame est morte !» La reine prit le bras de Barnave et monta dans les appartements, tandis que le roi descendait au jardin avec Pétion. Chacun d'eux allait avoir son tête-à-tête. Barnave n'osait parler le premier. La reine le mit sur la voie. « Oh, madame !» s'écria le jeune représentant dans le cœur débordé. « Que votre cause a été mal défendue ! Quelle ignorance dans les royalistes, de l'esprit du temps et du génie de la France !» La reine le regardait et l'encourageait du regard. « Combien de fois, grand Dieu !» continua Barnave, « ai-je été au moment de me dévouer à votre fortune, d'aller m'offrir à vous ?»« Mais, monsieur !» demanda la reine, « quel moyen m'eussiez-vous donc conseillé ?» « Un seul, madame, vous faire aimer du peuple. »« Hélas !» répondit la reine, qui sentait combien elle était haïe. « Comment donc aurais-je acquis cet amour ? Tout contribuait à me l'ôter. » « Eh, madame, reprit Barnave, si moi, avocat inconnu d'une petite ville de province, je suis parvenu à sortir de mon obscurité et à me faire populaire, combien vous était-il plus facile, à vous, si vous eussiez fait le moindre effort de garder votre popularité ou de la reconquérir. » Pendant ce temps, Pétion avait eu une idée d'honnête homme qui lui était inspirée par son bon cœur. C'était de faire évader les trois gardes du corps en les faisant déguiser en gardes nationaux. Il répondait bien du roi, de la reine, de Madame Élisabeth et des enfants de France. Mais quel gâteau jetterait-il à ce cerbère qu'on appelle le peuple ? Pétion craignait que le peuple n'égorgeât ces trois hommes. Le roi refusa. Pourquoi ? Eût-il cette idée insensée que Pétion voulait les faire assassiner et en chercher le moyen ? Ne voulut-il rien devoir à Pétion ? Ceci est plus probable. Pétion lui était antipathique. Pourquoi ne conserva-t-il point cette antipathie le jour où, pour faire nommer Lafayette maire de Paris, il préféra faire nommer Pétion ? Le lendemain arriva. C'était le 25 juin. On allait rentrer à Paris après 5 jours d'absence. 5 jours ! Quel abîme creusé pendant ces 5 jours ! Au moment de rentrer dans Paris, Barnave réclama la place du fond. Ce n'était plus la place d'honneur, c'était la place du danger. Si un fanatique eût tiré sur le roi, c'était peu probable. Sur la reine, c'était possible. Il était là pour se jeter au devant de la balle. M. Mathieu Dumas avait été chargé par Lafayette de protéger cette rentrée. 4 000 hommes de l'armée de Paris avaient été mis à sa disposition. L'habile stratégiste avait tiré parti de tout pour diminuer le danger. Il avait confié la garde de la voiture aux grenadiers, dont les hauts bonnets à poils cachaient les portières. Une ligne de grenadiers à cheval formait une seconde ceinture. M. de Valory raconte lui-même les précautions prises pour le protéger, lui et ses 2 compagnons. « 2 grenadiers, dit-il, furent placés, la baïonnette au bout du fusil, aux côtés de l'avant-train de la voiture, un peu plus bas que le siège, au moyen d'une planche attachée par-dessous celui-ci. » La chaleur était suffocante. La voiture, au fur et à mesure qu'elle avançait dans Paris, semblait s'approcher d'une fournaise. Plusieurs fois, la reine cria « J'étouffe !» Au Bourget, le roi demanda du vin et but. On entra dans la population mouvante et pleine de rumeurs. De temps en temps, on voyait de grands écriteaux dominant la foule. Le roi, myope, fit un effort et lut « Quiconque applaudira le roi sera bâtonné. » Quiconque l'insultera sera pendu. » La foule couvrait jusqu'au toit. M. Mathieu Dumas n'osa point entrer par le faubourg Saint-Martin. À la vue d'une pareille foule, il se demanda s'il y aurait une barrière humaine capable de protéger ceux qu'elle aurait dévoués à la mort. Il tourna Paris par les boulevards extérieurs et l'on rentra par les Champs-Élysées et la place Louis XV. Sur la place Louis XV était la statue à laquelle on avait bandé les yeux avec un mouchoir. « Pourquoi ce bandeau ? » demanda le roi. « Pour exprimer l'aveuglement de la monarchie, » répondit Pétion. Dans le parcours des Champs-Élysées à la place Louis XV, la double haie de grenadiers à pied et à cheval fut plusieurs fois brisée. Alors la reine voyait apparaître à la portière de la berline des figures hideuses grinçant des dents. Qui éloignait ces hommes au visage de démons ? Un baiser que leur envoyait le dauphin, un salut que leur faisait sa sœur. Les 2 anges aux ailes blanches planaient au-dessus de la famille royale. Lafayette, avec son état-major, avait été au devant de la reine. Dès qu'elle l'aperçut, elle l'appela. « Monsieur de Lafayette ! » lui cria-t-elle. « Avant tout, sauvez les gardes du corps. Ceux-là n'ont fait qu'obéir. » c'est qu'en effet, pour eux, le danger était grand. Les voitures entrèrent dans les Tuileries et ne s'arrêtèrent qu'aux marches de la large terrasse qui s'étend devant le palais. C'était là qu'on l'attendait. On ne pouvait aller plus loin, il faudrait bien descendre. « Monsieur Barnave, dit encore une fois la reine, je vous recommande les gardes. » L'assemblée était avertie, elle envoya 20 députés. Lafayette déblaya le chemin. Des marches de la terrasse à la porte du palais, il fit une voûte de fer avec les fusils et les baïonnettes de la garde nationale. Tant que le roi serait là, les malheureux gardes n'auraient rien à craindre, la présence du roi les sauvegarderait. Les enfants sortirent les premiers et gagnèrent le palais sans obstacle. Puis ce fut le tour des gardes du corps. Il y eut un instant de lutte terrible. Les sabres et les piques des assassins se faisaient jour entre les rangs des gardes nationaux. Messieurs de Valory et de Malden reçurent de légères blessures. Tout à coup, la reine se sentit prise par les mains et entraînée. Elle regarda. Ceux qui l'entraînaient étaient ses ennemis mortels, messieurs d'Aiguillon et de Noailles. Elle pensa s'évanouir de frayeur. Qu'allait-il faire d'elle ? La livrer au peuple, tout au moins la jeter dans un couvent. Au péril de leur vie, ils la conduisirent jusqu'à sa chambre. Sauvée, une angoisse la prit. Où était le dauphin ? Qu'était devenu le dauphin ? Personne ne l'avait vu, personne ne pouvait lui répondre. Elle courut éperdue en l'appelant. Écrasée de fatigue, l'enfant dormait sur son lit. Et maintenant, le roi. Le roi arrivait, se dandinant de son pas tranquille. Il était sorti le dernier de la voiture et était entré aux Tuileries entre Barnave et Pétion. Toute la journée, le peuple rugit dans le jardin du château et sur la place du Carrousel. Le lendemain, le journaliste Prudhomme écrivait « Quelques bons patriotes, en qui le sentiment de la royauté n'a pas éteint celui de la compassion, ont paru inquiets de l'état moral et physique de Louis XVI et de sa famille, après un voyage aussi malencontreux que celui de Sainte-Menou. Qu'il se rassure, notre ci-devant, samedi soir, en rentrant dans ses appartements, ne se trouva pas plus mal à son aise qu'au retour d'une chasse fatigante, à peu près nulle. Il dévora son poulet comme à l'ordinaire, et le lendemain, à la fin de son dîner, il joua avec son fils. Quant à la mère, elle prit un bain en arrivant. Ses premiers ordres furent de demander des chaussures, en montrant avec soin que celles de son voyage étaient percées. Elle se conduisit fort lestement, avec les officiers préposés à sa garde particulière, et trouva ridicule et indécent de se voir contrainte à laisser ouverte la porte de la salle de bain et celle de sa chambre à coucher. L'échafaud, sur lequel Louis XVI eut la tête tranchée, avait 5 marches. La première, la prise de la Bastille. La seconde, les 5 et 6 octobre. Il venait de monter la troisième, l'arrestation à Varennes. Il lui en restait 2 à monter encore, le 20 juin et le 10 août. Le 21 janvier ne fut qu'un dénouement.